best-seller de Café Polar. Catherine Fruchon-Toussaint, Jean-François Cadet.
Bonjour Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous.
Comme chaque semaine, vous allez donc nous proposer un polar qui sort de l'ordinaire et aujourd'hui vous allez nous parler d'un roman noir où se mêlent l'écriture policière et poétique, c'est pas courant effectivement.
C'est même assez étonnant parce que des polars qui parlent de poésie ou qui retranscrivent des poèmes dans le cadre d'une intrigue, ça existe. Je pense au génial roman Le Poète par exemple de Michael Connelly. Mais là c'est vraiment différent parce que l'autrice Johanna Krawczyk en l'occurrence, qui vient donc de publier La Danse des Oubliés aux éditions Héloïse d'Ormesson, a fait le choix tout au long de son écriture d'alterner un récit classique avec des intermèdes poétiques qui sont très nombreux et qui d'une certaine façon expriment autrement les pensées de ces personnages et qui racontent différemment l'histoire, les crimes, l'enquête, tout l'appareil policier traditionnel. Et ce contraste donne vraiment un roman inédit. Alors, est-ce que ça voudrait dire que finalement, polar et poésie font beau ménage, Johanna Krawczyk?
J'espère. J'espère qu'ils font beau ménage. Oui, ici, en l'occurrence, je tenais à raconter donc une histoire avec du mystère, du suspense, qu'on ait envie de tourner les pages. Et pendant longtemps, il n'y a pas du tout eu ces intermèdes poétiques qui sont venus après, parce que justement, c'était trop étouffant. À mon goût, j'avais besoin que le texte respire et surtout qu'on soit plus près des personnages, qu'on plonge vraiment dans leur intimité, dans leur paysage intérieur. Moi-même, c'était une période où j'avais besoin de retrouver du souffle et où je me suis mis à lire beaucoup de poèmes. Et ça s'est infiltré, en fait, de manière très, très naturelle dans l'écriture. Et ça m'a plu. Et du coup, ça s'est rencontré, ça s'est installé de cette manière-là.
Mais vous aviez déjà écrit de la poésie ?
Non.
Donc c'est une première aussi.
Alors c'est une première. En revanche, je suis nourrie de textes dramatiques et j'ai toujours eu un goût très très fort pour les monologues. Donc je pense que ça vient de là aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de poèmes en vers libre, mais en réalité, on est comme dans du monologue à la première personne, alors que le reste du récit est à la troisième personne du singulier. Donc je pense que c'est des moments aussi où j'avais besoin d'une forte coprésence avec les personnages. Et donc il y a de la poésie, mais il y a une forte influence aussi de certains écrits dramatiques que j'ai pu lire.
J'imagine les cailloux quotidiens, les messages d'horreur répétés dans la peur. Le maudit enfant et ma sœur qui rapetissent sous les mots couteaux. Des groupes tueurs à pas sourds. J'imagine les scènes cruelles, sidérées que personne ne s'impose, sidérées que personne n'ose, constatant que c'est trop pour un cœur d'enfant, un cœur d'humain. Pourquoi sommes-nous incapables de vivre en frères, en sœurs ? Le maudit m'a lu ce poème après notre soirée au coin du feu. Vivre comme un arbre, seul et libre. Vivre en frère comme les arbres d'une forêt. Cette attente est la nôtre. Pourquoi avons-nous besoin, depuis la nuit des temps, d'un ennemi, un seul, le bouc, émissaire de nos tourments, miroir de notre impuissance.
Quelques lignes de ce roman pour nous bien faire comprendre, pour nous faire goûter ces atmosphères si particulières. Catherine, on a entendu donc la voix de la narratrice. Qui est cette jeune fille ?
Eh bien, je vous présente Luce. Elle a 17 ans, elle rêve d'être danseuse, mais dans la petite commune où elle habite, Belle Rose, arrive un drame. Sa petite sœur est retrouvée assassinée dans la rivière qui traverse le village. Alors, c'est un meurtre qui rappelle à tous les habitants un autre crime survenu 30 ans plus tôt, au même endroit où le corps d'une autre adolescente avait été découvert. Une affaire qui n'avait jamais été résolue et qui avait laissé inconsolable Mathias, le petit frère de la deuxième victime. Et donc, trois décennies plus tard, Luce va voir ce garçon devenu adulte pour lui demander de l'aide car elle pense que leurs sœurs ont été tuées par la même personne. C'est vraiment un duo tout à fait original. Johanna Krawczyk.
Ce duo, pour moi, il évoque d'abord l'espoir. C'est-à-dire qu'on a effectivement d'un côté Luce qui se rebelle, qui est indignée par ce qui est en train de se passer, qui est indignée par le silence, qui est indignée par les secrets qu'elle peut percevoir. Et pour moi, le fait qu'elle ait 17 ans n'est pas anodin, puisqu'elle incarne justement ce rapport aux idéaux qu'on a de manière très forte quand on est adolescent. Donc elle a la soif de liberté, elle a la soif de justice. Et donc, elle est dans cette impatience-là. Elle est au présent absolument. Et à l'inverse, on a Mathias qui, lui, est comme emprisonné par son passé. Donc, il a tiré un trait dessus. Il ne veut surtout pas en entendre parler. Parce que le drame qui s'est joué donc, il y a 30 ans l'a cantonné à ce rôle-là du maudit. Et il n'arrive pas à en sortir. Il est emprisonné. Et donc, ce duo-là, il représente aussi, pour moi, deux attitudes différentes face au traumatisme et face à la place qu'on donne à la mémoire. Donc, d'un côté, on a Luce. Elle va devoir faire avec, mais du coup, elle est au présent. Elle essaie de trouver une solution. Et à l'inverse, à l'opposé, on a Mathias qui, lui, vit emprisonné parce que le passé a déterminé ce qu'il était. Donc, il a certaines habitudes, il a une certaine image de lui-même et il est coincé là. Et évidemment, cette rencontre va les faire bouger tous les deux.
On a donc deux meurtres d'adolescentes qui articulent ce roman. Catherine, deux féminicides ?
Absolument. Ce sont deux jeunes filles, on va le comprendre, qui meurent parce qu'elles sont filles. Mais ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que Johanna Krawczyk, en mettant en place un duo d'enquêteurs mixtes, balaye l'idée de fait que tous les hommes sont pareils. Et donc, ce combat contre les féminicides, il faut le mener ensemble, comme elle l'a choisi délibérément avec Luce et Mathias.
Oui, c'était absolument conscient, de même que je tenais beaucoup à cette relation d'amitié, malgré l'écart d'âge. Et donc, dans mon esprit, on parle bien sûr de sororité, mais on parle aussi de fraternité. Et donc, ce duo, il était aussi important pour ça. Il symbolise ça, il symbolise cette fraternité, cette possibilité de vivre de manière apaisée.
Et de céder.
Et de céder, et du coup, de s'émanciper, justement, d'un passé qui nous a emprisonnés, en fait, on peut à nouveau regarder devant, on peut retrouver le mouvement. Voilà, Mathias, il était figé, et grâce à Luce, il va essayer de retrouver le mouvement.
Et pour finir, Catherine, un mot sur le titre, La danse des oubliés.
La danse, eh bien, vous l'avez compris, c'est parce que Luce est danseuse et qu'elle veut en faire son métier. C'est d'ailleurs une activité qui la porte à tout instant du roman. Quant aux oubliés, en effet, c'est une question qui peut se poser, puisqu'ici, le mot est au masculin pluriel et non, comme on pourrait s'y attendre, au féminin pluriel pour évoquer les deux jeunes filles assassinées. Alors, quelle est l'explication, Johanna Krawczyk ?
Alors, je m'étais toujours dit que je ne voulais pas répondre à cette question parce que j'aime bien l'idée que le lecteur puisse lui-même se faire une interprétation de qui sont ces oubliés. Je pense que ça se décline, mais voilà, je ne vais pas complètement botter en touche. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dimension qui est l'oubli de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se cantonne à la place qu'on nous a assignée, celui du maudit pour Mathias, par exemple, si on ne refuse pas de désobéir, il y a un oubli qui commence à s'installer de soi. Et comment fait-on pour renouer avec sa danse intérieure ? Voilà, c'est tout le trajet du livre, de l'histoire. Et donc la danse des oubliés, voilà, s'ancre en partie dans ce désir-là, en tout cas.
Voilà, vous savez presque tout de ce deuxième roman de Johanna Krawczyk. Je vous rappelle son titre, La danse des oubliés, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et l'intégralité de ma rencontre avec l'autrice est à découvrir dans le podcast Café Polar.